Je suis devenu chrétien il y a longtemps maintenant, mais il y a une chose qui ne changera jamais. Je sais que chaque jour, lorsque je me lève du lit, j'ai besoin de Dieu. Il n'y a rien que je puisse faire chaque jour qui puisse changer ce fait. Comment je le sais-je? Eh bien, j'ai vu la grâce et l'amour de Dieu dans ma vie. Et j'ai réalisé que la vie ne se résume pas à aller travailler chaque jour pour payer mes factures. C'est beaucoup plus grand que ça. Dieu a nous créé d'avoir une femme, d'être plein et entière. Et nous essayons souvent de faire en sorte que les choses qui nous entourent et dans notre vie remplissent cet espace. Mais ce ne sont pas que des choses matérielles qui nous satisferont jamais nos âmes, nos cœurs ou nos vies. On choisit de faire beaucoup de choses, on prend les choses matérielles, on entoure avec beaucoup de gens, des relations, etc., etc. Mais nous avons toujours une soif d'être entière. Dieu nous appelle à bien plus. Si je veux passer chaque jour, j'ai ce besoin de Dieu dans ma vie. Aucun acte, aucun désir, aucun péché, aucune personne ne peut changer cela et je trouve mon identité en Dieu. Et je réalise de plus en plus chaque jour qu'il n'y a rien dans ma vie, rien d'assez bon qui puisse me rendre acceptable aux yeux de Dieu. Pour cela, j'ai besoin de lui dans ma vie. Plus je lis ma Bible, plus j'étudie Jésus, Dieu et l'Esprit, plus je rends compte que je ne serai jamais à l'auteur. Je sais que je suis chaque jour. Et cela m'incite à prier, à chercher le pardon et à reconnaître sa seigneurie dans ma vie. Et ça, c'est important. Dans quelle mesure réalisons-nous chaque jour notre pauvreté spirituelle et notre besoin de Jésus? Nous en rendons-nous compte chaque jour et le portons-nous avec nous chaque jour dans notre vie? Pourquoi est-ce important? Parce que cela nous aide à changer notre façon de voir le monde et de vivre dans le monde. Pour ceux d'entre vous qui sont parents, rappelez-vous quand vous étiez mariés pour la première fois et qu'il n'y avait que vous et votre mari ou votre femme, la vie était si différente. Puis, lorsque votre premier enfant arrive, votre vie change et vous avez désormais une responsabilité. Un petit être sans défense que vous aimerez énormément, qui compte sur vous pour tout et pour lequel vous ne feriez pour rien. Cette vision change et évolue au fil du temps. Lorsque cet enfant naît, votre vision de la vie change. Il devrait en être de même pour nous chaque jour. Si nous nous accrochons à la réalisation de qui nous sommes et de qui nous avons besoin dans notre vie. nous avons besoin de réaliser chaque jour nous sommes pauvres. Et ça nous dirige de faire les choses pour Dieu, de chercher Dieu, de le connaître de plus en plus. Un petit pub, prendre le petit cours avec Cathy, de lire la Bible, prendre le cours avec Henri pour prier. C'est les choses qui nous aident de chercher Dieu, de remplir cette soif dans nos vies. Rends-nous humbles devant Dieu. Parce que c'est lui, c'est pas nous. Le deuxième. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Nous avons déjà écouté quelques mots de ça aujourd'hui. Je suis presque certain que chaque personne présente dans cette salle a traversé une période difficile ou une tragédie dans sa vie et qu'elle a fini par en pleurer. C'est normal, c'est la vie. Certains l'ont même vécu plusieurs fois. Les moments les plus difficiles sont ceux où nous perdons un membre de notre famille, un mari ou une femme, un parent ou un autre cher. Nous ressentons un vide et une douleur intérieure et nous cherchons parfois des distractions pour nous changer les idées, pour nous épanouir. Cela peut prendre différentes formes. Et pour certaines personnes, cela peut conduire à des drogues ou à des dépendances de toutes sortes. Parce qu'on a besoin de remplir cette vide qui était créé dans nos âmes. Cette béatitude est lié avec la première. Si nous réalisons vraiment que nous sommes spirituellement pauvres et que nous ne pouvons pas vivre sans Dieu, nous devrons vivre à deuil antérieur. Cette tristesse doit nous conduire à la repentance. 2 Corinthiens 7, 9 et 10. Mais maintenant, je me réjouis, non pas de votre tristesse, mais de ce que cette tristesse vous ait amené à changer d'attitude. Car la tristesse que vous avez éprouvée était bonne aux yeux de Dieu, si bien qu'en fait, nous vous avons causé aucun tort. En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. La tristesse du monde, elle, produit l'amour. La tristesse est bonne. N'est-ce pas? Avec Dieu, oui. Jérémie 31, 13. Alors les jeunes filles danseront dans la joie, de même que les jeunes gens et les vieillards. Et je transformerai le deuil en allégresse. Je les consolerai de leur chagrin. Oui, je les réjouirai. C'est dans notre détresse Dieu nous donne la joie. Si nous comprenons, on n'a pas un besoin de Dieu, on n'a pas une chance de trouver la consolation et une vraie joie. C'est lié avec la première. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Lorsque nous péchons, nous devrons en être affligés, au point de pleurer dans notre cœur. Non seulement parce que nous avons péché, mais aussi à cause des effets de ce péché dans le monde qui nous entoure. Qu'il s'agit d'un petit mensonge, d'un meurtre, d'un adultère, de la pornographie ou de quoi que ce soit d'autre. Notre péché a un effet sur ce monde. Cela devrait nous pousser à rechercher la repentance et la délivrance en Christ. Et c'est là qu'on trouve le réconfort de Jésus, de Dieu. Et c'est ça qu'il a parlé. Numéro 3. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Celui-ci parle de la douceur. La douceur est souvent confondue avec la faiblesse. En anglais, ces deux termes se ressemblent beaucoup, mais ils ont des significations très différentes. En fait, pour être doux, il faut être fort. D'être doux signifie avoir une attitude humble et gentille. Exprimer de la patience et de l'endurance face aux offenses. Il ne s'agit pas d'une faiblesse, mais plutôt d'une force qui permet à quelqu'un de rester calme et maîtrisé, même lorsqu'il est provoqué. J'ai besoin de ça dans le trafic. Dans un monde où les droits sont importants et où l'orgueil est reconnu comme une vertu, la douceur va à l'encontre des valeurs du monde d'aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Jésus était doux. Il s'est soumis à la volonté du Père. Il a choisi de souffrir en conséquence. Et il est mort pour la puissance de Dieu puis se manifester à travers lui. Nous devons apprendre à être doux. Cela va à l'encontre de notre culture. Cela va à l'encontre du monde qui nous entoure. Et cela nous permet de vivre des vies plus pleines, des vies remplies de satisfaction et de bonheur. En pratique, cela signifie que nous devons faire une pause et prier avant d'agir. Mieux comprendre les motifs qui nous poussent à réagir et choisir de prendre la décision difficile de suivre la douceur de Jésus. C'est ainsi que nous pourrons être libérés et satisfaits au point que les gens remarquent la différence en nous, la force de ce que nous sommes et le fait qu'elle transcende notre relation avec Dieu. c'est important. Chaque fois on a une réaction forte, ça vient de nous, parce que nous sommes blessés. Mais on ne comprend pas pourquoi. C'est nous. Toujours, ça c'est notre première réaction. Mais ça demande nous de prendre un peu de distance, souffle un peu et demander à Dieu quelle est la bonne réaction, quelle est pas juste ma besoin dans cette situation, mais le besoin d'autres personnes. Pourquoi il a fait ça? Et tu as la chance de voir Dieu manifeste dans leur vie à cause de ça. Numéro 4. Heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Examinons le psaume 42. Versets 2 et 4. Comme une biche tourne la tête vers le corps d'eau, je me tourne vers toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je aller et me présenter devant Dieu? Mes larmes sont le pain de mes jours comme de mes nuits. Il y a un lien tel important ici. David a écrit ces mots des siècles avant nous. Comme les paroles de Jésus, elles ne se limitent pas à l'eau et au pain, à la faim et à la soif, aux besoins des choses, mais vont bien plus loin de ça. Nous avons tous des besoins et des désirs. Pour certains, il peut s'agir d'un logement ou de nourriture. Pour d'autres, du bonheur ou de la guérison, de la prospérité ou du prestige. Il y a différence entre les besoins et les désirs. Mais ce que les deux textes indiquent, c'est Dieu. Si vous avez Si vous ne vous attaquez pas à la racine du problème, au véritable besoin, ou à la véritable envie, il ne sera jamais satisfait. Nous vivons dans un monde où on a beaucoup de choses. Apparemment, dans les derniers 10 ans, nous avons utilisé 68% des ressources que les 50 ans avant de ce monde. Ça, c'est une statistique incroyable. En 10 ans, nous avons utilisé 68% de la ressource de sept mondes que les 50 ans avant. Ça, c'est énorme. Nous sommes dans un monde où on achète des choses. Il y a plus de vêtements dans nos placards maintenant qu'il n'y a jamais dans ce monde. Et on n'utilise pas. On n'est jamais satisfait. On n'est jamais satisfait des choses. Notre véritable besoin est de vivre dans la justice de Dieu, de rechercher le royaume et la justice de Dieu en premier lieu. Et ce faisant, tous nos autres besoins sont satisfaits. Si on cherche pour Dieu, on va être satisfait avec des choses. Parce que ça change notre mentalité, notre cerveau, nos pensées, nos désirs, si on focalise nos vies sur Dieu. Comment pourrions-nous être fidèles si nous ne sommes pas capables de reconnaître que nous avons besoin de Dieu, que nous devons nous repentir et nous humilier? Chacune de ces béatitudes s'appuie sur le suivant et contribue à renforcer, à faire grandir notre foi. Ainsi, chaque jour, nous devrons être amenés à la recherche le royaume de Dieu en toutes choses et avoir sa justice ici sur terre. Numéro 5. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. La recherche de la justice et du royaume de Dieu dans notre vie quotidienne nous pousse à être miséricordieux les uns envers les autres. C'est parce que nous comprenons la miséricorde que Dieu nous a accordée. Peu importe à quel point votre vie a été mauvaise ou pécheresse, Dieu a fait preuve de bonté envers chacun d'entre nous et nous appelle à étendre cette miséricorde à d'autres. Dans un monde légaliste, contrôlé et rigide, nous pouvons apporter une nouvelle lumière en montrant et en partageant la miséricorde avec ceux qui nous entourent, car ce n'est pas que par sa miséricorde que nous pouvons vivre éternellement. En faisant preuve de miséricorde envers les autres, nous verrons cette miséricorde nous revenir, changeant notre façon d'agir les uns envers les autres. Reconnaissons que nous sommes trop pécheurs et que nous commettons des erreurs et que nous devons être miséricordieux envers les autres. Quand on prend ce chemin et on suit toutes les béatitudes, ça change nos vies petit à petit. Et on arrive de voir dans nos vies, nous sommes les pécheurs. Et nous sommes entourés par les pécheurs aussi. On n'a pas le droit de juger les gens. Mais donne grâce et miséricorde à eux. Parce que Dieu nous accorde la même. Le sixième. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. C'est un combat quotidien et constant, surtout dans le monde égoïste dans lequel nous nous trouvons. La culture nous pousse à penser d'abord à nous-mêmes et nos motivations devraient être guidées par ce que nous voulons, parce que nous sommes plus importants que n'importe qui d'autre. Ça, c'est notre monde. Si nous avons bien compris la première 5 béatitudes, nous devons saisir celle-ci. Cela signifie mourir à soi-même. L'égoïsme anime un cœur impur. Et lorsque nos motivations sont douteuses, nous aurons du mal à voir Dieu dans les choses. Nous aurons du mal à le voir à travers notre foi qu'allait remettre toute en question. Matthieu 22, verset 37 nous éclaire davantage. Jésus lui répondit, « Tu aimerais le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est ce que signifie avoir un cœur pur. Chercher Dieu et permettre à ses voies de diriger les nôtres. Nous ne pouvons pas dire que nos cœurs sont exempts de péché, mais souvenez-vous que le Christ est venu pour nous libérer. Alors si nous nous attachons à lui chaque jour, il purifiera nos cœurs et nous rendra entiers à nouveau. Et numéro 7, heureux ceux qui répondent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. En hébreu, le mot utilisé est shalom. Et cela ne signifie pas seulement la paix ou l'absence de lutte ou des problèmes, mais aussi la plénitude. Regardons le monde qui nous entoure. Pouvons-nous dire que nous vivons dans un monde de paix? À ce moment, sûrement pas. Depuis le début du temps, quand la paix a-t-elle existé? On a vu dans la Bible beaucoup de guerres. Dans les derniers 100 ans, on a vu des guerres. Partout. Pourquoi pensez-vous que c'est le cas? Probablement parce que nous ne le comprenons pas. Il devrait y avoir la paix dans nos cœurs. Et cette paix est, comme je viens de le dire, une complétude. Une plénitude que nous pouvons trouver auprès de Dieu. On n'a pas de paix dans ce monde parce qu'on n'a pas de paix dans nos cœurs. On n'a pas une plénitude dans nos cœurs. Si nous avons une vraie paix, on a cette plénitude, on n'a pas cette vision de monde qui n'avons pas de pays. Toutes les guerres et pour une raison. Toutes les battues sont pour une raison. Et souvent, ces raisons sont égoïstes. D'une sorte, une manière. Pour une vraie paix, il n'y a pas de place pour égoïsme. Il n'y a pas de place. Éphésiens 2, 14 jusqu'à 16. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu de le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annuler les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Le cœur de Dieu a pour nous d'être un seul corps. Et si nous n'avons pas une vraie paix dans nos cœurs, une plénitude de lui dans nos cœurs, ça n'arrive jamais. Ce n'est que par cette paix que nous pourrons désarmer les conflits qui nous entourent, que nous pourrons apprendre à nous aimer correctement et construire des meilleures communautés des croyants dans ce monde. Et ce monde a un besoin de ça. Numéro 8. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Ces béatitudes nous montrent que nous irons à l'encontre de la culture du monde qui nous entoure. Et même si cela sera difficile, cela suscitera des résistances et des pressions et dans certains cas, des persécutions. Nous connaissons tous l'Église persécutée pour laquelle nous avons prié en novembre. Nous savons que ce monde continue à être rempli des conflits et des difficultés et qu'il y a toujours, aura toujours des gens qui rejettent la façon dont vous voyez les choses, la façon dont le Christ vous conduit. Et rien ne dit que ce sera facile. Mais nous serons heureux à cause de ce que nous avons à l'intérieur. Nous serons remplis du bonheur de Dieu, un vrai bonheur qui n'est pas éphémère, un contentement qui nous rend complète. Et alors que nous faisons face aux adversités que cette année nous réserve, nous devrions rester concentrés sur lui et nous rappeler ses béatitudes et ce que Dieu vous a dit à travers celle. En conclusion, je voudrais vous rappeler qu'au moment où vous précipitez pour prendre vos résolutions pour la nouvelle année, on vous prépare à n'accomplir que les trois premiers jours de la nouvelle année. Pensez aux vraies choses de votre vie sur lesquelles vous devriez vous concentrer et faites-les plus tôt. Les autres choses sont bonnes, mais concentrez-vous sur la raison pour laquelle Jésus est venu sur terre et pourquoi vous pouvez être appelé un enfant de Dieu. Désolé, la dernière diapo a une liste de choses à tirer et de mémoriser. Mais si on suit toutes les béatitudes, on va voir une vie contente, remplie avec joie. Et je sais, ce n'est pas facile. Nous sommes des pécheurs. Mais si nous sommes reconnaissants, c'est que Dieu qui amène dans la joie. Nous avons déjà pris une bonne étape. Merci beaucoup. On veut prier. Père, merci pour l'unité de Dieu, de Jésus, la douceur qu'il a manifestée pour nous, afin que nous puissions avoir la plus riche bénédiction possible dans le monde dans lequel nous vivons. Père, merci qu'à travers lui, nous puissions te voir, que nous puissions réaliser que nous avons besoin de toi dans nos vies et lorsque nous te cherchons, toi et tes voix. Nous puissions voir ta justice dans nos vies. Apprends-nous à être humbles et doux et permettre-nous de faire preuve de miséricorde envers ceux qui nous entourent. Défie-nous d'avoir un cœur pur et de ne pas détourner nos yeux de toi. Et que toute ta paix remplisse nos vies. Et que ceux qui nous entourent soient attirés par ce que tu fais dans nos vies. Qui veut en savoir plus sur toi et qu'il y ait le même désir que nous, celui d'être tes enfants. Merci Père, en ton nom. Amen.